Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un moment d'exceptionnelle communication entre deux êtres. Ainsi est qualifié un dialogue entre un homme qui aime une femme, laquelle femme, de son propre aveu, a aimé un temps très bref, l'homme qui lui demande de renoncer à son mariage avec un autre. Mais, ajoute-t-elle, il me semble que si vous aviez pu moins m'aimer, je vous aurais aimé plus. Lire et relire les romans, plaisir de la lecture, le roman « L'adolescent » de Dostoïevski était au menu de cette émission diffusée sur France Culture le 16 novembre 1964.
Plaisir de la lecture.
Monsieur Jean-Jacques Kim a choisi la lecture de « L'adolescent » de Dostoïevski. Jean Topard lira des extraits de cette œuvre. Écoutons monsieur Jean-Jacques Kim.
Dostoïevski, qu'André Gide découvrait à ses auditeurs du Vieux Colombier voici presque un demi-siècle, n'est plus à découvrir. On l'a depuis lu et relu, mieux traduit, mieux compris, beaucoup analysé, transposé à la scène ainsi qu'au grand et au petit écran. Ces transpositions, certes, ont fameusement contribué à la connaissance du grand romancier, de son univers, de ses personnages, des lignes de force de sa pensée. Toutefois, elles ont exigé, c'était fatal, une singulière simplification, une irrécupérable schématisation. André Gide lui-même, voulant démontrer que Dostoïevski, dans ses romans, ne cherche pas à dégager la ligne des personnages, qu'il ne tend pas, selon le mot de Jacques Rivière, à organiser l'incohérence, et qu'il accepte, dans leurs actes, des inconséquences inexpliquées, le fait, dans un langage cartésien, dans une perspective rationaliste qui, elle-même, fausse la vraie perspective dostoïevskienne. Par exemple, Gide écrit que les personnages de Dostoïevski acceptent et assument leur dualité. C'est à mon sens pluralité qu'il faudrait dire. S'il distingue trois niveaux dans l'existence du personnage dostoïevskien, le niveau de l'intelligence, celui de la passion et le niveau profond où les contradictions sont en quelque sorte calmées, résolues, ce n'est là qu'une vue bien schématique et sommaire du mystère fascinant de ces êtres romanesques. Ce premier point posé, comment échapper à l'écueil ? Je ne connais qu'une solution, aller au texte lui-même, lire et relire les romans jusqu'à l'assimilation du mystère que dégage chaque personnage en raison même des multiples facettes qu'il présente. Naturellement, je ne prétends pas accomplir ce miracle en me penchant avec vous sur quelques pages de l'énorme et foisonnant volume de l'adolescent. Je ne l'ouvrirai que pour vous donner envie de vous y plonger plus avant. Je ne ferai que l'entrouvrir. Mais si j'accomplis cette tâche, ce n'est pas seulement dans le but de prendre avec vous le plaisir d'un quart d'heure de lecture. Voici quel est le fond de mon projet. Autour de nous, dans le halo de nos amours, de nos amitiés, gravitent certains êtres inexplicables. Nous souffrons de les comprendre mal et, partant, de les mal accepter tels qu'ils sont. L'amour, qui est respect du mystère de l'autre, représente, comme le dit si bien Denis de Rougemont, une communion au niveau de l'âme bien plus qu'au niveau du corps ou de la chose qui pense de Descartes. Il exige donc, de la part de celui qui aime, non pas une compréhension intellectuelle totale de l'être aimé, encore moins une explication psychologique, mais une certaine sensibilité qui n'a que peu de choses à voir avec l'intelligence ou avec les sens. Ici, Dostoïevski nous aide. Qu'on me comprenne bien. Un roman de Dostoïevski ne nous explique pas le comportement des êtres que nous aimons par analogie avec les personnages imaginaires. Il n'apporte nulle théorie explicative. En revanche, il développe en nous une certaine forme de sensibilité transcendante apte à nous rendre perceptible l'âme d'autrui. L'âme, point de convergence de ses comportements, de ses sentiments, de ses rêves, de ses idéaux, dont nulle théorie psychologique ne peut accepter l'apparent décousu. Dostoïevski, si l'on veut, déplace mon regard, pour reprendre une expression du poète Marcel Béalut. Il le situe en un point stable d'où je peux, sans faiblir, accepter qu'un être se comporte autrement que je ne l'attendais. Telle Catherine Nikolaevna dans L'Adolescent, lorsque, s'adressant à Versilov, elle lui dit « Séparons-nous, et alors je vous aimerai, mais séparons-nous. » Isolé, que signifie cette phrase ? Isolé de la densité d'âme qui anime cet homme et cette femme, et que nous sentirons mieux en lisant tout à l'heure la scène complète. Isolé, elle est absurde, et plus encore absurde que Versilov accepte et qu'une telle affirmation lui rende la sérénité. Bien sûr, mais elle exprime avec éclat combien, pour l'un et l'autre, la présence, les relations importent moins que la perfection de leur amour. Et voilà ce qu'il est bien difficile de comprendre avec l'intelligence. Voilà cette réalité que Dostoïevski nous fait admettre comme une évidence et non comme une conséquence logique. Versilov aime Catherine Nikolaevna ? Oui, non, affirmation et négation logique sont ici déplacées. Lisons ensemble ce sommet de l'adolescent. C'est l'adolescent, Arkad Makarovitch Dolgoroki, fils naturel de Versilov, caché derrière une tenture, qui assiste à la scène et nous la rapporte.
Ils étaient assis l'un en face de l'autre. Elle était en robe noire, belle et calme en apparence, comme toujours. Il parlait et elle l'écoutait avec une attention extraordinaire et prévenante. Peut-être eût-on pu deviner chez elle une certaine timidité. Lui, au contraire, était fort excité. J'étais survenu en pleine conversation et c'est pourquoi je fus un moment avant de comprendre. Je me souviens qu'elle demanda tout à coup « Et c'est moi qui en suis la cause ?»« Non, c'est moi, » répondit-il. « Vous êtes coupable sans l'être. » Vous savez, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont les fautes les plus impardonnables. Et elles sont presque toujours punies, ajouta-t-il avec un rire singulier. Et moi qui ai pensé un instant vous avoir oublié et qui riais vraiment de ma sotte passion. Mais vous le savez. Après tout, pourquoi me préoccuperais-je de l'homme que vous épousez? Je vous ai adressé hier une proposition. Ne m'en veuillez pas, c'est une sottise. Mais je n'ai rien pour la remplacer. Que pouvais-je faire d'autre que cette sottise? Je ne sais pas. Tout à coup, il se leva de sa chaise. « Dites-moi comment vous avez pu consentir à venir ici ?» lui demanda-t-il, comme s'il se souvenait de la chose essentielle. « Serait-ce seulement par peur ?»« Je suis venu vous voir, » prononça-t-elle en le considérant avec une prudence craintive. Tous deux restèrent une demi-minute silencieux. Versilov se rassit et, d'une voix douce mais pénétrée, presque tremblante, commença. « Il y a bien longtemps que je ne vous ai vue, Catherine Nikolaevna. Si longtemps que je ne jugeais presque plus possible de me trouver un jour comme aujourd'hui, assis à côté de vous, à regarder votre visage et entendre votre voix. » Voici 2 ans que nous ne nous sommes vus, 2 ans que nous ne nous sommes parlé. Je ne comptais plus vous parler jamais. Allons, soit ce qui est passé, et ce qui est aujourd'hui disparaîtra demain comme une fumée. J'y consens parce que, encore une fois, je n'ai pas de quoi le remplacer. Mais ne vous en allez pas maintenant sans rien. Ajouta-t-il tout à coup, presque suppliant. « Puisque vous m'avez fait l'aumône de venir, ne vous en allez pas sans rien. Répondez à une question. Et quelle question ? Nous ne nous reverrons plus jamais. Que vous en coûte-t-il ? Dites-moi la vérité une fois pour toutes. Répondez à une question que ne posent jamais les gens sensés. M'avez-vous aimé au moins un moment ? Ou bien me suis-je trompée ? » Elle rougit tout entière. « Je vous ai aimé, » dit-elle. « Et maintenant, » continua-t-il, « maintenant je ne vous aime plus. Et vous riez ? » ?»« Non, si j'ai ri tout de suite, c'est malgré moi, parce que je savais bien que vous demanderiez « Et maintenant ?» Et j'ai souri parce que quand on devine, on sourit toujours. Je ne l'avais jamais vue aussi prudente. Il la dévorait des yeux. Je sais que vous ne m'aimez pas. Je ne vous aime pas, ajouta-t-elle fermement, sans sourire et sans rougir. Oui, je vous ai aimé, mais pas longtemps. J'ai très vite cessé de vous aimer. Je sais, vous avez vu que ce n'était pas ce qu'il vous fallait, mais qu'est-ce qu'il vous faut ? Expliquez-le-moi encore une fois. Ce qu'il me faut, mais je suis la plus ordinaire des femmes. Je suis une femme tranquille. J'aime les gens gais. Gais ? Vous voyez combien je suis même incapable de causer avec vous. Il me semble que si vous aviez pu moins m'aimer, je vous aurais aimé alors. Et de nouveau, elle sourit timidement. Il la regarda et eut un sourire singulier. Bjorn est gay ? Il ne doit pas vous inquiéter, répondit-elle un peu hâtivement. Pas du tout. Je l'épouse uniquement parce qu'avec lui, je serai plus tranquille qu'avec un autre. Toute mon âme me restera. Je suis venu parce que je vous ai aimé autrefois, mais je vous en prie, ne me menacez pas. Tant que nous sommes ensemble, ne me rappelez pas mes mauvaises pensées, mes mauvais sentiments. Si vous pouviez me parler d'autre chose, j'en serais très heureuse. C'est vrai, je suis venu pour vous voir et vous écouter une minute. Si vous n'en êtes pas capable, tuez-moi tout de suite. Seulement, ne me menacez pas et ne vous tourmentez pas vous-même devant moi. Je veux penser et je penserai à vous toute la nuit. Pour vous tourmenter. Je vous vois quand je suis seul, toujours. Je ne fais que converser avec vous. Je m'en vais dans les bas-fonds et les repères, et comme contraste, vous apparaissez tout de suite devant moi. Mais vous riez toujours de moi, comme maintenant. Il dit cela comme hors de lui. Jamais je n'ai ri de vous, s'exclama-t-elle d'une voix pénétrée. Et avec une extrême compassion peinte sur son visage. Si je suis venu, c'est que j'ai fait tous mes efforts pour ne pas vous blesser en quoi que ce soit. Je suis venu ici pour vous dire que je vous aime presque. Pardonnez-moi, je me suis peut-être mal exprimé. Il rit. Pourquoi ne savez-vous pas feindre? Pourquoi êtes-vous si simplette? Pourquoi n'êtes-vous pas comme tout le monde? Allons, comment peut-on dire à un homme qu'on met à la porte « Je vous aime presque » ? C'est que je n'ai pas su m'exprimer. C'est que devant vous, j'ai toujours eu honte. Je n'ai jamais bien su parler. Et si je ne me suis pas bien exprimé en disant que je vous aime presque, c'est que dans ma pensée aussi, c'était presque ainsi. Voilà pourquoi je l'ai dit. Bien que je vous aime de cet amour commun dont on aime tout le monde et qu'on n'a jamais honte d'avouer. En silence, sans détourner d'elle son regard ardent, il prêtait l'oreille. Je vous offense sans doute, continua-t-il. Ce doit être effectivement ce qu'on appelle une passion. Je sais une chose, c'est qu'avec vous, je suis fini. Sans vous aussi. Sans vous, avec vous, c'est tout un. Où que vous soyez, vous êtes toujours avec moi. Je sais aussi que je peux vous haïr beaucoup plus que je ne peux vous aimer. D'ailleurs, voici longtemps que je ne pense plus à rien, tout m'est égal. C'est dommage seulement que j'ai aimé une femme comme vous. La voix lui manquait. Il continua, comme suffoquant. Vous trouvez barbare que je parle ainsi. Je crois que si cela pouvait vous séduire, je resterais bien quelque part 30 ans planté sur une seule jambe. Je le vois, je vous fais pitié. Votre visage dit « je t'aimerais si je pouvais, mais je ne peux pas ». C'est cela. Peu importe, je ne suis pas fier. Je suis prêt comme un mendiant à recevoir de vous n'importe quelle aumône. Vous entendez ? N'importe laquelle. Quelle fierté peut avoir un mendiant ? Elle se leva et s'approcha de lui. Mon ami, je ne puis pas entendre de telles paroles. Je penserai à vous toute ma vie comme au plus précieux des hommes, au plus noble cœur, à l'objet le plus sacré entre tout ce que je peux respecter et aimer. Andrei Petrovitch, comprenez-moi. Ce n'est pas pour rien que je suis venu. Mon cher, vous qui m'avez été et m'êtes toujours cher, je n'oublierai jamais comment vous m'avez ému lors de nos premières rencontres. Eh bien, séparons-nous en amis, et vous serez ma pensée la plus sérieuse et la plus chère durant toute ma vie. Séparons-nous, et alors je vous aimerai. Je vous aimerai, mais séparons-nous. Écoutez, prononça-t-il tout pâle, faites-moi encore une aumône. Ne m'aimez pas, ne vivez pas avec moi, ne nous voyons jamais. Je serai votre esclave si vous m'appelez. Je disparaîtrai aussitôt si vous ne voulez plus me voir ni m'entendre. Seulement, ne vous mariez pas. Cette prière naïvement humiliée était d'autant plus pitoyable, perçait d'autant mieux le cœur qu'elle était plus franche et plus impossible. Quant à elle, tous les traits de son visage se déformèrent de douleur. Mais avant qu'elle eût dit un mot, il se reprit. « Je vous anéantirai, » prononça-t-il soudain d'une voix bizarre, changée, qui n'était plus la sienne. Mais elle lui répondit aussi bizarrement, aussi d'une voix inattendue qui n'était plus la sienne, « Si je vous accorde cette aumône, vous vous vengerez plus tard encore plus cruellement que vous ne m'en menacez maintenant, parce que vous n'oublierez jamais que vous vous êtes fait mendiant devant moi. Je ne peux pas entendre ces menaces de votre bouche, conclut-elle presque avec indignation, en lui lançant un regard de défi. Je plaisantais, dit-il doucement, avec un sourire. Par ici, il lui montra la porte. « Pardonnez-moi si vous pouvez, » dit-elle en s'arrêtant sur le seuil. « Et si nous nous rencontrons un jour tout à fait amis, et que nous nous souvenions de cette scène aussi avec un bon rire, » prononça-t-il tout à coup. « Dieu le veuille, » cria-t-elle en joignant les mains. Il dit encore, « Allez-vous-en. Nous sommes trop intelligents tous les deux, mais vous... Oh, vous êtes une personne dans mon genre. Je vous ai écrit une lettre folle et vous avez consenti à venir pour me dire que vous m'aimiez presque. Non, vous et moi, nous avons la même folie. Nous sommes de fameux originaux. Soyez toujours aussi folle, ne changez pas. Et nous nous retrouverons amis. C'est moi qui vous le prédis, je vous le jure. Et alors, je vous aimerai sans faute. Je le sens déjà maintenant. » Elle n'y tint plus et lui lança sur le seuil ses derniers mots.
Vous l'avez entendu, Versilov pose à Catherine des questions que ne posent jamais les gens sensés. Ils viennent ensemble de vivre un de ces moments exceptionnels où des âmes de feu, au-delà des mots, par-delà toute logique et tout bon sens, communiquent vraiment. C'est cela que Versilov appelle être de fameux originaux. Et ils ont conscience, l'un et l'autre, d'avoir vécu un moment d'exceptionnelle communication. La preuve, les propos de Catherine Nikolaevna sur son projet de mariage avec Bioring, le colonel Bioring. Auprès d'elle, Bioring représente le bon sens, la logique, la bonne compagnie. Tout ce qu'il faut oublier pour comprendre Catherine et Versilov. Du reste, Bioring est allemand, pas russe. Versilov et Catherine sont, à mon sens, les deux personnages les plus forts, les plus significatifs. Mais il y a pourtant le narrateur qui donne son titre au roman, cet adolescent, frère du prince Mishkin de l'idiot. Arkad Makarovitch Dolgoruki, fils naturel de Versilov, lequel Versilov vit depuis 20 ans avec la mère d'Arkad, ancienne serve domestique de sa maison. Et n'allez pas croire qu'entre-temps, s'il s'est pris d'amour pour Catherine, il a cessé d'aimer la mère d'Arkad. Il en fait à son fils la confidence en quelques lignes.
La femme russe donne tout si elle aime. Et l'instant et la destinée, et le présent et l'avenir. Elle ne sait pas économiser, elle ne fait pas de réserve. Et sa beauté passe vite à celui qu'elle aime. Les joues creuses de ta mère, c'est de la beauté qu'elle m'a sacrifiée pour ma courte jouissance. Tu es content que j'aie aimé ta mère? Tu ne croyais peut-être pas que je l'eusse aimée. Oui, je l'ai beaucoup aimée, mais je ne lui ai jamais fait que du mal.
Arkan Makarovitch, par son âge, sa naissance dans une famille de hasard, sa formation de hasard dans des pensions de Moscou, est un être inachevé, non pas informe comme le prétend Gide, nous le verrons mieux tout à l'heure, un de ces êtres qui se cherchent et se chercheront toujours, comme on en rencontre guère dans la littérature française que chez Alfred de Musset. Je trouve une profonde parenté entre le Célio des Caprices de Marianne et Arkad Makarovitch Dolgorouki. Tous deux capables de faiblesse et de sublime, riches de tous les tâtonnements excessifs de l'adolescence. Gide, qui juge à tort Arkad Makarovitch comme une créature veule et à la merci de chacun, ce sont ses propres termes, n'a vu de lui qu'un seul aspect, il se trompe. Et c'est justement dans ces moments sublimes qu'Arkad Makarovitch se révèle un caractère digne de celui de son père, dans ces moments sublimes qu'il devient un de ces êtres sensibles à l'âme dont je parlais plus haut. Lui aussi, en rencontrant Catherine Nikolaevna, a été touché par un sentiment qu'il ne s'est pas encore nommé amour. Et il y a dans le roman quelques pages où le dialogue entre Catherine et Arkad Makarovitch ressemble étrangement au dialogue Catherine Versilov que nous venons de lire. Eux aussi surmontent le raisonnable et se disent des choses qu'on ne dit pas entre gens normaux. Et à quoi cela servirait-il de s'en tenir à la normale si cet état justement devait contraindre l'individu à rester en deçà de ses possibilités? Il est aussi grave pour certains êtres de n'être que normal, écrivait le psychologue Jung que je cite de mémoire, que pour d'autres de souffrir de n'être pas normal. Le normal est une valeur qui règle les rapports sociaux. Quand un Arkad Makarovitch et une Catherine Nikolaevna se trouvent pour la première fois face à face, il n'est plus question de rapports sociaux. Mais il importe pour l'un et l'autre que ces moments exceptionnels soient vécus avec toute l'intensité possible. Alors la bienséance et la logique ne compte plus.
Écoutez, Catherine Nikolaevna, et ne vous fâchez pas. Est-ce vrai que vous vous mariez? Ce n'est pas tout à fait décidé, dit-elle comme effrayée. C'est une bonne personne? Pardonnez-moi cette question. Oui, très bonne. Ne me répondez plus. Ne me gratifiez plus d'une réponse. Je le sais bien, ces questions sont impossibles venant de moi. Je voulais seulement savoir s'il est digne ou non. Mais je prendrai mes renseignements moi-même. Ah, écoutez-moi donc, fit-elle avec effroi. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Je passerai outre. Mais voici ce que je vous dirai. Que Dieu vous accorde tous les bonheurs, tous ceux que vous souhaiterez, en échange de tout le bonheur que vous venez de me donner en une petite heure. Vous êtes maintenant gravé à jamais dans ma mémoire. J'ai acquis un trésor, la pensée de votre perfection. Je soupçonnais de la perfidie, une coquetterie grossière et j'étais malheureux, parce que je ne pouvais pas allier ensemble cette idée et vous. Ces jours derniers, j'y pensais, nuit et jour. Et maintenant, tout est clair. En venant ici, je pensais que j'en rapporterais hypocrisie, ruse, serpent inquisiteur. Et j'ai trouvé honneur, gloire, vous riez. Soit, soit, c'est que vous êtes une sainte. Vous ne pouvez pas rire de ce qui est sacré. Oh non, je ris seulement parce que vous avez des mots si effrayants. Qu'est-ce par exemple qu'un serpent inquisiteur? Elle éclata de rire. Il vous est échappé aujourd'hui une parole précieuse, continuai-je enthousiasmé. Comment avez-vous pu dire devant moi que vous comptiez sur mon emportement? Je le sais bien, vous êtes une sainte. Vous vous imaginez coupable de je ne sais quelle faute, et vous voulez vous punir, quoiqu'en réalité il n'y ait pas de faute du tout, puisque même s'il y a eu quelque chose, tout est saint qui vient de vous. Mais pourtant, vous auriez pu ne pas prononcer ce mot, cette expression. Une franchise aussi peu naturelle prouve seulement votre suprême chasteté, votre respect pour moi, votre foi en moi. Oh, ne rougissez pas. Et qui donc ? Qui a pu vous calomnier et dire que vous êtes une femme passionnée ? Oh, pardonnez-moi, je vois une expression de douleur sur votre visage. Pardonnez à un adolescent exalté ces phrases maladroites. Mais s'agit-il aujourd'hui de phrases, d'expressions ? N'êtes-vous pas au-dessus de toutes les expressions ? Versilov a dit un jour que si Othello a tué Desdémone et s'est tué ensuite, ce n'est pas par jalousie, mais parce qu'on lui avait ravi son idéal. Je l'ai bien compris, parce qu'on m'a rendu aujourd'hui mon idéal.
La passion désordonnée d'Arkan Makarovitch le mène, on le voit, aux mêmes excès, aux mêmes paroxysmes que Célio dans Les Caprices de Marianne. Et plus tard, quand il croira découvrir la duplicité de son idole, il armera son cœur d'une haine démesurée qui le mènera aux plus déraisonnables imprudences. Il complotera, en compagnie d'un fiefé coquin et maître chanteur, de perdre Catherine Nikolaevna et de lui faire payer très cher son humiliation. Le maître chanteur Lambert n'est pas russe, il est français. On voit comment, dans son roman, Dostoïevski différencie les êtres qui obéissent à une logique simpliste par leur nationalité même. Bioring, le fiancé de Catherine Nikolaevna, n'est pas russe non plus. Bien entendu, je n'ai nommé là qu'un très petit nombre de personnages de l'adolescent, les principaux, les plus riches, les plus envoûtants. J'ai dû laisser de côté d'admirables figures comme la mère et la sœur d'Arkan Makarovitch, le vieux Makar Ivanovitch Dolgoruki, douloureux visage d'humilié et de silencieux, le prince Serioja, image de la détestation de soi-même, et la plus conventionnelle Tatiana qui, au milieu de ce peuple aux actes hasardeux, représente le bon sens, la providence familiale et la force de caractère. Et pourtant, même Tatiana porte sa part d'ombre. Tatiana n'est pas tout à fait ce qu'elle paraît. Autrefois, elle a aimé Versilov. Aujourd'hui, elle se fâche quand Arkad, au détour d'une conversation, ressuscite ce sentiment volontairement silencieux. Avant de quitter tout ce monde envoûtant, dont l'ordre secret se cache derrière le désordre apparent, je voudrais faire un ultime constat qui va nous ramener à mon premier propos. L'homme des romans de Dostoïevski est rarement l'homme d'une seule passion. De multiples passions en lui cohabitent qui, en bonne logique, devraient s'exclure ou, selon le mot du code d'amour courtois, se succéder. Un amour chasse l'autre, lit-on dans le texte célèbre de Marie de Champagne. Eh bien non, un amour ne chasse pas l'autre. Un amour chasse l'autre, c'est la formule impérative d'un code, une loi de la vie pratique. C'est un ordre qu'on impose à la nature, un idéal de pureté morale. Un amour doit chasser l'autre. La nature des personnages dostoïevskiens ne s'est pas, et de loin, inclinée sous cette loi. Mais regardons-les avec cet autre regard dont je vous ai parlé en commençant. Leurs passions contradictoires ne sont autre chose que l'expression de la générosité de leur nature, ce feu central qui est l'ardeur même de la vie, et sans lequel aucun être humain n'est capable de vraies passions ni de vrais excès. Un Arkan Makarovitch, un Versilov peuvent alors nous rendre sensibles à la beauté, à la grandeur authentique, à l'âme inexplicable de certaines personnes qui nous entourent. Là où nous pourrions nous scandaliser de leurs contradictions, il nous restera d'admirer l'âme humaine dans les manifestations pures de son intensité. Admettons qu'un amour ne chasse pas l'autre. Tout au plus, un nouvel amour occupe-t-il une place plus large dans le champ de la conscience. Les bons souvenirs que conserve notre mémoire, c'est encore de l'amour, puisque notre mémoire c'est nous, et non un passé dépassé selon les règles de la mécanique. Sans doute, Arkad et Versilov sont-ils des monstres. Ils ont l'impudeur extrême par leurs actes et leurs paroles, ces interminables conversations entre le père et le fils, ces interminables confidences, ces interminables explications qui n'en sont pas, de révéler ce que d'ordinaire l'homme ou la femme a la pudeur de cacher. Arkad et Versilov sont coupables de l'impudeur la moins pardonnable, celle de l'âme. Mais pudeur et impudeur font encore partie des valeurs de ce monde rationnel, organisé selon les règles de la bienséance, auxquelles n'appartiennent pas les personnages de Dostoïevski. Et c'est justement à cause de cette situation qu'ils peuvent nous apprendre à voir derrière l'apparence les profondeurs de l'âme où les contradictions cessent de se contredire. Il est trop facile, trop commode de s'attacher à ce que notre raison admet sans difficulté. C'est derrière la cohérence humaine, derrière cette apparence artificielle, que se cache ce que nous devons aimer si nous aimons vraiment.
Au cours de cette émission, nos auditeurs ont entendu M. Jean-Jacques Kim qui nous parlait de l'adolescent de Dostoïevski. Jean Topard a lu des extraits de cette œuvre. Notre émission « Plaisir de la lecture » est terminée.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 novembre 1964. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».
Oh!